Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Joël Couillandre et Cathy, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Je vous présente, Joël, on vous a déjà entendu sur cette antenne. Vous êtes membre d'AFPS, Association France-Palestine Solidarité, ici à Rennes. Et vous êtes aussi présente dans de nombreux mouvements de soutien aux personnes exilées. Cathy, vous êtes médecin à la ville et vous êtes aussi une amie de Tarek Abou Eita. Tarek, il est originaire de la bande de Gaza. Il habite aujourd'hui à Rennes avec son fils. On va raconter son histoire et puis les dernières nouvelles qu'on a, qui sont des bonnes nouvelles. On le dit dès maintenant, pour commencer à le présenter. Donc Tarek, il vivait dans la bande de Gaza, plutôt au nord, je crois, s'il fallait peut-être le présenter un petit peu et parler de lui avant les événements d'octobre 2023. Est-ce qu'on commence par ça ? Peut-être Cathy, vous qui êtes une amie ?
Oui, Tarek, il travaillait à Gaza, il était marié, père de 4 garçons. Et il travaillait dans le domaine social, je ne sais pas exactement son poste, mais il avait fait des études, hein. Il a un bac plus 4 dans le domaine des sciences sociales. Et le 14 octobre 2023, sa maison a été bombardée et le même jour, il a perdu un de ses fils qui s'appelait Ilyas, 12 ans, sa femme Muntara de 38 ans et son père. Les trois sont morts le même jour. Un de ses fils, Fares, qui est à Rennes actuellement avec lui, qui a 14 ans, était gravement blessé. Donc il a eu 2 mois de coma, il a été évacué par l'Égypte. Et Tarek a pu accompagner, sortir, il était blessé aussi au visage et aux yeux. Il a pu sortir avec son fils Fares et être ensuite évacué vers la France. Mais il n'a pas eu le droit de partir avec ses 2 autres fils. Qui sont restés à Gaza sans leur papa et sans leur maman, puisqu'ils n'ont plus de maman.
Je vais redonner quelques éléments de contexte pour les auditeurs qui ne les ont plus forcément en tête. Le 7 octobre 2023, le mouvement du Hamas mène une attaque terroriste de grande ampleur contre Israël. 1200 personnes y perdent la vie et au moins 200 personnes sont retenues comme otages. Certaines le sont toujours. Cette journée, elle a marqué le début d'une riposte israélienne meurtrière. Je suis allée prendre les chiffres du côté d'UNICEF. Plus de 41 000 personnes tuées. 60% sont des femmes ou des enfants. Pas loin de 100 000 blessés. Plus de 10 000 personnes portées disparues et 9 millions de Palestiniens qui ont quitté le pays. Ce conflit d'ordre géopolitique, il a touché donc la famille de Tarek avec le bombardement de sa maison au mois d'octobre 2023. Peut-être que Joël Couillandre, on peut redire un mot sur ce qui se passe en fait depuis dans la bande de Gaza. L'association France-Palestine Solidarité avait l'habitude d'y intervenir, notamment pour des cueillettes d'olives. On en avait parlé sur cette antenne. On parle d'un territoire qui était déjà une prison à ciel ouvert, mais où la vie est devenu un enfer depuis un an, en fait.
Oui, pour revenir sur un petit peu sur l'histoire de Tarek, en fait, il est précisément originaire de Jabalia, le camp de réfugiés de Jabalia au nord, donc qui regroupait des gens qui avaient déjà été chassés. Et donc, lui, il est originaire d'une famille qui résidait sur les territoires actuels d'Israël, qui ont été chassés et qui se sont réfugiés à Gaza. Donc, il avait déjà le statut de réfugié de l'UNRWA, enfin des Nations Unies, quand il habitait à Jabalia. Et il se trouve que Jabalia, c'est le premier endroit où l'association France-Palestine de Rennes et la ville de Rennes ont mené une action de solidarité, puisqu'on a financé un jardin d'enfants, le jardin qui s'appelait Al-Zahour, dans le camp de réfugiés de Jabalia, dont il ne reste rien. C'est-à-dire que le camp de réfugiés est détruit à 90%. Voilà. Pour situer un petit peu les choses telles qu'elles se passent là-bas, en fait, Tarek, il habitait dans une maison qui était très très proche d'une école de l'UNRWA, donc école des Nations Unies, protégée, etc. Et quand Les bombardements israéliens ont commencé en gros à partir du 8 octobre. Ils se sentaient pas spécialement menacés, habitant vraiment tout près de l'école de l'UNRWA. En plus, il se trouve que lui avait été avant fonctionnaire de l'autorité palestinienne, avant que le Hamas prenne le pouvoir en 2007. Donc voilà. Et en fait, la bombe est tombée sur le quartier où il y avait l'école. Depuis, c'est devenu une pratique systématique, puisque notamment depuis l'été dernier, il y a eu 21 écoles de l'UNRWA complètement détruites. Donc c'est des écoles où les gens chassés du nord essayent de trouver refuge, quoi. Donc ça montre l'intensité des choses. Et pour préciser sur la situation actuelle des enfants, donc ils ont été évacués vers le sud, vers Rafah d'abord. Rafah ayant été envahie, ils ont été mis sur Khan Younis, sortis de Khan Younis, remis à Khan Younis. Et en fait, la semaine dernière, il y a une bombe qui est tombée à 300 mètres de la tente où ils sont. Voilà.
Est-ce que vous trouvez qu'on médiatise assez les dommages causés aux civils sur ce conflit depuis un an ?
Bien sûr que non.
La population française, entre autres, ne réalise pas. Par exemple, personne ne réalise que la bande de Gaza, c'est 2,5 fois plus petit que Rennes Métropole. Que si on prend la totalité des morts et des blessés très graves dans la bande de Gaza, et si on applique ça à la ville de Rennes, en fait, ne resterait comme survivant à Rennes, que les gens du quartier de Bréquigny, et puis un petit bout du Blône. Tout le reste de la population aurait été éliminé.
Pour revenir donc à l'histoire de Tarek Abouaïta, donc il a été évacué avec son fils en fin d'année dernière grâce à l'intervention du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Ils ont d'abord été envoyés vers l'Égypte avant que l'ambassadeur de France au Caire n'intervienne pour finalement un transfert en France et donc vers l'hôpital Pontchaillou ici à Rennes. Ils sont aujourd'hui tirés d'affaire sur le plan médical. On imagine quand même un traumatisme fort. À quoi peut ressembler la vie pour Tarek depuis... Alors, il est arrivé au mois de janvier, ici, à Rennes.
Ils sont isolés. Ils sont tous les deux hébergés par Coalia. Son fils, Fares, a encore un suivi médical, parce qu'il y a des séquelles. Il a été opéré plusieurs fois à Rennes. Et c'est une vie un petit peu... Enfin, même très triste, quoi. Parce qu'ils sont... Toute la journée, ils sont en WhatsApp ou en visio avec les deux petits qui sont restés là-bas. Qui sont chez un oncle maternel, je crois. Et ils les ont tous les jours en visio, quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour, mais ils sont séparés.
Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que donc des associations de soutien aux personnes exilées, aidées aussi un peu par des journalistes en presse locale, eh bien sonnent l'alerte. Ces deux enfants, Ahmed et Joud, ils ont 11 et 15 ans, ils sont toujours dans la bande de Gaza, dans une zone qui est aussi sujette à des bombardements. Enfin, c'est un lieu dangereux, quoi.
Je disais tout à l'heure que la semaine dernière, il y a une bombe qui est tombée vraiment très très près de leur tente. Et il y a de nombreux rapports de l'OCHA, donc l'Office de l'ONU, qui font état précisément sur cette zone-là, d'explosion, d'engins, etc. Et bon, c'est extrêmement, extrêmement dangereux, quoi. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de lieu sûr. Officiellement, l'endroit où ils se trouvent sous une tente, c'est une zone sécurisée. Mais en fait, il n'y a pas de zone sécurisée puisque ça bombarde et ça tire absolument tout le temps. Et donc, ces deux enfants-là sont donc orphelins seuls à Gaza. Ils ont donc un oncle maternel, mais les rapports de l'ONU font aussi état d'une multitude d'enfants qui sont isolés. Donc il y a à peu près 17 000 enfants. Il y aurait 17 000 enfants seuls sans leurs parents, errants dans la bande de Gaza. Et quand les enfants sont pris en charge, soit par la société civile, soit par la famille large, quoi, l'ONU dit mais ces enfants sont en danger parce que la situation est telle que, contrairement aux traditions de la société palestinienne, en fait, les familles se recentrent vraiment sur les familles nucléaires pour faire survivre leurs propres enfants, et les autres enfants sont laissés un peu à l'abandon. Et c'est exactement le cas de ces deux enfants-là, parce que Tarek, l'autre jour, nous disait qu'en fait, c'est le grand qui fait absolument tout. C'est-à-dire, c'est lui qui se débrouille pour trouver de la nourriture à des kilomètres de là, pour trouver de l'eau, pour préparer à manger, pour laver les affaires de son petit frère. En fait, la famille de l'oncle maternel ne peut pas gérer ça en plus de ses propres difficultés.
Qu'est-ce qu'on peut dire des difficultés d'accès aux besoins essentiels, eau, nourriture, électricité ?
Il n'y a rien qui rentre. Ils n'ont plus de savon pour se laver, ils n'ont plus de vêtements. J'ai des amis à Gaza qui ont le même t-shirt depuis plus de 6 mois, qui n'en ont pas pris de douche depuis plus de 6 mois. Moi, je suis médecin et normalement, dimanche prochain, je devais partir là-bas via une ONG. Et l'entrée des humanitaires, elle est interdite. Israël n'a pas confirmé la mission, donc au mois d'août, on devait déjà y aller. Ça a été refusé par Israël. Et là, dimanche prochain, je viens d'avoir un message comme quoi la mission n'est pas confirmée encore. On est à 4 jours du départ. Il n'y a rien qui rentre.
Comment est-ce qu'on explique que dans ce contexte, deux enfants mineurs ne puissent pas rejoindre rapidement leur père qui est donc arrivé au mois de janvier ? C'est une question de papier.
Pour tout exilé, indépendamment de son origine, la procédure, c'est de faire une demande d'asile auprès de l'OFPRA, donc l'Office français de protection
des réfugiés et des apatrides.
Voilà. Et ensuite, il faut attendre d'être convoqué, puis attendre d'avoir la réponse. Et seulement si la réponse est positive, alors là, une demande de regroupement familial peut être faite. Alors, il se trouve que M. Abouaita a été vu par l'OFPRA le 14 mai et que nous, on a commencé à se mobiliser en ne voyant pas la réponse de l'OFPRA arriver. Alors, bonne nouvelle, elle est arrivée hier soir et elle est positive, mais on le savait puisque de toute façon, ce sont les consignes qui sont données d'accorder l'asile aux gens qui sont originaires de la bande de Gaza. Mais je pense qu'il a quand même fallu faire un petit peu de bruit pour que l'OFPRA accélère les choses. Et maintenant, on va rentrer dans la deuxième phase. Alors, pour vous expliquer un petit peu...
Il a donc son statut de réfugié.
Depuis hier. Voilà. Et en fait, il devait venir avec nous ce matin, mais il ne peut pas parce qu'il est justement en train de faire toutes les démarches, etc. Mais pour un regroupement familial, il faut par exemple fournir des extraits d'actes de naissance certifiés conformes par les autorités du pays. À Gaza, il ne reste rien. Tout est détruit. Il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'autorités. Donc déjà... Comment fournir ces certificats-là ? C'est totalement impossible.
Il y a une tolérance peut-être dans ce genre de circonstances ?
Alors, c'est ce qu'il va falloir creuser. Ça, c'est le premier handicap. Le deuxième, c'est que pour que les enfants puissent sortir, il faut qu'ils soient accompagnés de quelqu'un qui a l'autorité parentale. Personne n'a l'autorité parentale à Gaza. Même si l'oncle des enfants souhaitait l'accompagner, il ne serait pas autorisé à sortir par l'armée israélienne. Donc en fait, les seules possibilités seraient de faire sortir les enfants par le biais d'une organisation humanitaire, mais Cathy a bien expliqué les difficultés qu'il y avait, même pour les organismes médicaux, et ou alors que les autorités consulaires du Caire, conformément à la promesse qui avait été faite à M. Abouaita, viennent chercher les enfants au point de passage. Alors, il arrive que certains exilés soient obligés de retourner dans leur pays ou dans un pays avoisinant pour récupérer leurs enfants. Mais si M. Abouaita arrivait en Égypte, il n'est pas du tout évident qu'il soit autorisé à descendre vers le sud. Et une fois descendu vers le sud, en fait, le seul point de passage ouvert, c'est celui de Kerem Shalom, contrôlé par Israël, il ne sera pas autorisé à passer. Donc en fait, on sait déjà, on a gagné, entre guillemets, une première manche, donc c'est bien, le verrou est ouvert maintenant pour la suite, mais on est très très loin d'avoir réglé les choses, quoi. Or, y a une urgence vitale.
Qu'est-ce qui peut débloquer une situation qui semble très complexe ? C'est des interventions parfois au niveau de l'État sur des cas individuels comme ça
De toute façon, M. Abouaita va avoir besoin de faire appel à un avocat, ça c'est clair. Et puis après, il y a effectivement les interpellations au plus haut niveau, y compris au niveau de la présidence. Voilà. et puis la mise en place d'un comité de soutien pour épauler tout ça, quoi. Voilà.
Ce qui vous a surpris dans cette histoire qu'on raconte aujourd'hui, ça a été le délai en fait, assez long pour traiter le dossier. Normalement, vous dites qu'il est plutôt de 6 mois. Alors là, finalement, on est à peu près dans les clous, mais avec une insistance peut-être particulière, quoi.
Alors, pour ce qui concerne la CNDA, donc la Cour nationale du droit d'asile, il y a un délai très strict qui est fixé pour la réponse, qui est de 21 jours. C'est pas le cas pour l'OFPRA où il n'y a pas de délai fixé. Alors habituellement, on se dit, bon, quand ça dure longtemps, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils font des recherches et qu'il y a une chance d'avoir une réponse. Mais là, de toute façon, le dossier était tellement limpide et tellement acquis d'avance qu'il n'y avait besoin de faire aucune recherche. Donc 4 mois, c'est très très long. Enfin, là, on lance un appel aux autorités françaises pour que les dossiers des personnes originaires de Gaza soient traités en extrême urgence, quoi. Qu'on n'attende pas 6 mois avant d'être convoqué à l'OFPRA et 4 mois, voire plus, avant d'avoir une réponse qui est assurée, en fait.
On espère que la situation va se débloquer et rapidement. Quand Tarek sera accompagné donc de ses 3 enfants autour de lui ici à Rennes, en France, on imagine qu'il y a un accompagnement nécessaire des associations de soutien aux personnes exilées une fois que tout est bon côté papier pour débuter une autre partie de sa vie sur un territoire qui n'est pas le nôtre, quoi.
J'ai déjà un ami qui lui donne des cours de français. Il a commencé, il apprend vite. Et j'ai une autre amie qui essaye de lui trouver un travail. Avec le bouche à oreille, on essaye de lui trouver un contrat qui nécessite pas forcément la maîtrise de la langue française. Mais il progresse rapidement, il comprend bien et il est malin, il est motivé, il est très courageux, très résilient. Je pense qu'il réussira.
Du côté des enfants, en fait, c'est le cas de Farès. Ils auront accès à un enseignement pour enfants allophones. Donc ça fonctionne plutôt bien, même si des fois les délais sont un peu longs de prise en charge. Mais bon, ça se fait quand même. L'éducation nationale, en fait, globalement, tient à peu près ses engagements.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Ouais. Et aussi le côté médical, parce que il faut quand même saluer l'accompagnement médical dont il a pu bénéficier. Ça encore, ça marche, même si c'est menacé pour l'avenir par les projets de loi divers et variés. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne et les médecins sont dévoués aussi.
On peut terminer avec un mot sur l'association dont vous êtes membre, Joël, AFPS, Association France-Palestine Solidarité, qui a donc une antenne ici à Rennes. Habituellement, vous aviez des actions sur le terrain que vous ne pouvez plus mener. Vous avez un temps organisé des rassemblements à Rennes pour essayer de mobiliser les citoyens. Et puis finalement, avec ce conflit qui s'étend sur un temps long, comment est-ce qu'aujourd'hui vous essayez de maintenir des actions, au moins pour informer les Rennaises et les Rennais?
Les rassemblements, les manifestations ont continué non-stop, sauf au mois d'août, en fait, il y a eu une interruption. Mais il n'y a pas que ça, parce que, en fait, on est convaincu que la population rennaise a besoin d'explications. En fait, on manque de connaissances. Les grands médias ne donnent pas d'informations. Donc, du coup, il y a des projections de films, des débats, etc. Bon, il se trouve que là, le 5, il y a une manifestation. Le 7, il y a un rassemblement qui aura une toute autre forme, parce que l'idée, c'est aussi de porter une voix de paix et d'espoir. Par exemple, il y aura des diffusions de poèmes de poètes de Gaza, des actions en art plastique aussi. L'idée, c'est pas du tout justement de nourrir la haine. L'idée, c'est de dire il y a possibilité de régler les choses pour peu que chacun prenne ses responsabilités. Ça fait maintenant plus de 70 ans que le problème existe. Toutes les étapes ont été ratées systématiquement. C'est une chose qu'on disait depuis des années, que le problème israélo-palestinien était une source d'embrasement pour toute la région, voire le monde. C'est très exactement ce qui est en train de se produire, quoi. Stop, stop, stop. Il faut des mesures claires de justice et d'équité. Il faut que les responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité soient punis, quel que soit leur bord. Il faut vraiment une justice pleine et entière. C'est la seule manière d'amener la paix. Parce que quand on rencontre des gens, parfois ils nous disent « ouais, mais moi je suis pas concernée, c'est loin ». Mais en fait non, c'est à nos portes. Et puis quand on voit comment c'est en train de s'enflammer partout, enfin on risque de ne pas être épargné. Les Français doivent le savoir.
Donc voilà, des mots qui résonnent dans le contexte qu'on traverse, à savoir un conflit qui s'étend au Proche-Orient et qui aujourd'hui touche le Liban. Je vous représente toutes les deux, donc Joëlle Couillandre, membre de l'association France-Palestine Solidarité à Rennes, et Cathy, médecin et amie de Tarek Abou Eita, dont on vient de raconter l'histoire. Il ne pouvait pas être présent, mais on pense bien à lui. On se réjouit donc de cette bonne nouvelle concernant l'obtention du statut de réfugié. Merci beaucoup.
Merci à vous.